ce déjà 10e numéro de devdevdev.net et pour cette fin d'année, un épisode un peu spécial consacré au concours de Microsoft pour les étudiants en informatique, Imagine Cup. Créé en 2003 d'une initiative de Maurice Sims et Laurent Hellerbach, ce concours international est unique. Pour avoir participé de très près à son lancement, il me tient particulièrement à cœur et je suis heureux aujourd'hui de vous faire rencontrer des participants de la première heure et d'entendre leur success story. Créateurs d'entreprises, managers chez Microsoft à Seattle, ils vous font découvrir leur parcours et vous donner quelques clés essentielles. Être bon développeur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull request.
Bien, et bien pour parler de Imagine Cup, cette compétition organisée par Microsoft depuis 2003, je reçois Laurent Hellerbach. Bonjour.
Bonjour Richard.
Laurent qui est principal software manager chez Microsoft.
Vous m'entendez là?
Oui, on t'entend, oui, au niveau européen. Je reçois également Guillaume Belmas, qui lui est CEO at Realytics. Bonjour.
Salut Richard.
Salut. Vincent Vergonjane, qui lui est fondateur et CEO chez Lucky Duck Games.
Bonjour Richard, merci de m'avoir avec toi.
Salut. Et on aura Vincent Belet, qui lui est Project Manager chez Microsoft, dans l'équipe de Microsoft Teams, qui a du mal à se réveiller puisque lui, il est à Seattle et il devrait pas tarder à nous rejoindre par la suite. Donc, vous avez tous en commun, vous avez participé à ce programme qui est Imagine Cup, donc ce concours organisé depuis 2003 par Microsoft pour les étudiants du monde entier. Et je crois que Laurent était véritablement un des initiateurs avec Maurice en 2003 sur ce programme-là.
Effectivement, Richard, tout est parti de Seattle dans une discussion avec Maurice Sim un soir dans son bureau. Et on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu différent finalement pour les étudiants. Et on avait tous les deux l'idée de faire une compétition pour les étudiants, mais pas un truc mathématique, juste absolu, tu sais, qui fait des équations, mais vraiment un truc comme dans la vraie vie. Donc, c'est-à-dire un projet à plusieurs, autour évidemment des technologies Microsoft, mais qui puisse permettre de créer une entreprise ou un business, disons, on va dire, sustainable. Je ne sais même plus comment on dit en français, tu vois, je parle tellement trop souvent anglais. Et donc, qu'ils puissent permettre de s'exprimer comme ça autour des technologies. Donc, tout est parti comme ça. Le lendemain, on présente ça à nos collègues. Il y avait une douzaine de personnes. Tout le monde dit « Ah ouais, c'est cool, ok. » On était au mois de janvier et puis on fait « Bah écoute, quand est-ce qu'on commence ?» Et puis, on regarde « Bon, c'est quand le prochain événement ?»« Tiens, il y a un truc à TechEd, Barcelone 2013. Bah, on n'a qu'à faire ça là, première étape. » Et puis, c'est parti comme ça. Tout est parti comme ça. D'une discussion dans un bureau. Et puis d'une présentation à quelques collègues. Et puis en route pour 2013. Non, t'as raison, 2003. 2003, 2022, ça fait 19 ans là. Un beau bébé bien mature qui est maintenant presque en âge de se marier, on va dire.
Ouais, et je me souviens donc à Barcelone, c'était un Américain qui avait gagné. Et alors, ce qui est drôle, c'est que son projet aujourd'hui ferait un petit peu sourire, puisque c'était le principe, c'était dans un restaurant, les serveurs qui venaient avec leur PDA, qui prenaient les commandes des personnes qui venaient dans le restaurant, et ça envoyait directement la commande en cuisine. Donc avec un système, avec un serveur de JS, des PDA qui communiquaient par des web services avec le serveur. C'est une chose qui est courante aujourd'hui, mais qui à l'époque était un peu avant-gardiste, quoi.
Exactement, c'est un peu ça Imagine Cup, si tu veux, c'est de pouvoir exprimer des idées qui à l'époque paraissent nouvelles, qui sont intéressantes, qui technologiquement on peut mettre en œuvre, qui permettent de créer un business, parce que le petit gars là, il a créé son business, hein, il a continué, il en a vendu, alors je ne sais plus après ce qu'il a fait, mais voilà, c'est ça l'idée d'Imagine Cup, façon, on va avoir quelques candidats là, ex-candidats et amis, pour présenter un petit peu tout ça, voir quels ont été leurs parcours. Mais je pense que c'est un bon tremplin pour finalement mettre un pied à l'entrepreneuriat, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise ou à l'extérieur d'une entreprise. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force et qui a toujours fait la force d'Imagine Cup.
Alors justement, en parlant de candidats, on va recevoir le premier candidat, c'est Guillaume Belmas, qui lui, avec Vincent et puis deux autres, alors j'ai honte, je ne me souviens plus de leur nom, mais vous allez pouvoir me...
Émeric et François.
Voilà. Donc, c'était en 2004. Là, la finale était à San Paolo, enfin au Chute d'Iguassu. C'est là où il y avait le concours en lui-même et puis la remise des prix avait lieu au World Trade Center à San Paolo. Donc toi, Guillaume, tu faisais partie de cette équipe qui a été championne du monde, hein, on peut le dire officiellement. et depuis, alors, d'abord, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu as fait depuis ces 19 ans, enfin ces 18 ans?
C'est clair, ça fait longtemps. alors, dans l'ordre, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Parce qu'on était quand même quatre dans l'équipe. Je pense de la satisfaction, puisqu'en fait, on a pas ménagé nos efforts dans cette compète. Enfin, on s'est vachement éclaté à le faire. Je pense que c'est comme le truc numéro un à souligner, c'est qu'on y a passé des soirs et des week-ends, mais on s'est quand même bien marré. On a fait plein de trucs vraiment sympas et comme on le disait tout à l'heure, à l'époque, c'était dingue. Aujourd'hui, ça fait sourire parce que tout le monde a ça sur son téléphone. Mais franchement, c'était canon. Enfin, c'était vraiment des super bons souvenirs. On a rencontré plein de gens excellents dans tous les sens du terme. Et qu'est-ce que ça nous a apporté? Ouais, je pense là, déjà une énième épreuve de résistance au stress parce que quand tu fais la finale française, que t'es à cran et que t'as bossé pendant 3 mois non-stop et que ta démo, elle se foire, parce que moi, ma partie de la démo, elle s'est foirée à la finale française. Tout le monde avait bien fait son job et ma démo s'est foirée à la finale française, mais ça a quand même marché. On est quand même parti en finale mondiale. Et finale mondiale, ouais, on s'était préparé comme des dingues aussi. Et le niveau de stress, c'est pas le même, quoi. Quand bien même, on se dit, on a tout donné. Nous, notre objectif, de toute façon, c'était d'être champion au niveau France. Et en fait, après, on s'est dit, advienne que pourra. Donc, quelque part, ça nous a permis de relativiser. Mais on s'est pas empêché de dire, peut-être on va y arriver, peut-être ça va être ouf, peut-être qu'on va gagner. Et jusqu'au dernier moment, honnêtement, on n'y croyait pas. Je pense que Vincent abondera dans mon sens, mais vraiment, on s'y attendait pas du tout. Et finalement, ça l'a fait, donc ça, c'était top. Et après, ça nous a apporté de l'exposition aussi, de l'exposition presse, quoi, on va dire. Dans le microcosme Microsoft, hein, évidemment, hein, c'est pas non plus, on n'est pas passé au JT de 20h, mais c'était cool. Et en fait, après, c'était la grosse question. Il y a plusieurs qui nous ont dit, les gars, pourquoi vous montez pas une boîte avec le projet que vous avez fait? Parce que la réalité, c'est que vous pourriez le faire. Et comme on s'y attendait pas, on n'y avait pas du tout réfléchi. On s'est dit, ah ouais, mais nous, pour nous, c'était un projet. Enfin voilà, le truc qui s'est fait, c'est gagné. On a eu notre petite revanche, on a eu une petite rivalité entre notre école et une autre école d'ingé. Et on avait eu notre revanche à l'époque. Et pour nous, c'est bon, le dossier était plié. Mais en fait, il y en a plusieurs qui nous ont dit, mais en fait, votre projet, c'est dingue et ça peut marcher. Donc vous devriez peut-être songer à monter une boîte. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à monter une boîte. Très rapidement, il y en a un d'entre nous qui a dit, non mais moi de toute façon j'avais déjà prévu de partir un tour du monde, donc les gars, si vous voulez faire, allez-y, faites-le, mais ça sera sans moi. Mm-hmm. En fait, à l'époque, et peut-être on en reparlera, mais à l'époque, en fait, tout l'écosystème d'entrepreneuriat, d'incubateurs, d'accélérateurs, de start-up, etc., que ce soit au niveau Microsoft ou même de manière générale, ça n'existait pas. Il y avait rien de tout ça qui existait. Et on a été littéralement livrés à nous-mêmes sur ce truc-là. Et en fait, je pense que c'est un truc qui nous a à la fois découragés et peut-être un petit peu effrayés. Quand même, on se disait, mais évidemment que dans le futur, ce truc-là existera. Et en fait, finalement, on a tous un peu lâché l'affaire parce que c'était pas, encore une fois, à la base, c'était la volonté, c'était de faire un projet, de s'éclater, c'était pas de monter une boîte, quoi. Et sans aucun regret, on est passé à autre chose. Et voilà, et ça fait une super signature sur le CV, ça on va pas se le cacher. Donc du coup, très rapidement, on a tous trouvé des jobs à droite à gauche, Et on a lancé notre carrière professionnelle comme ça, quoi. Donc voilà. Et puis, ouais, le fait de savoir pitcher un projet, mine de rien, c'est quand même important. C'est ce qui fait aussi que derrière, tu te souviens un peu d'Imagine Cup quand tu montes ta boîte et que tu pitches ton projet pour de vrai. Tu fais, hey, finalement, c'est pas si différent.
Ah, je me souviens des séances de coaching qu'on avait fait pour s'acheter de pitcher avec laisser la porte ouverte à quelques questions type que tu es sûr de pouvoir avoir. Comme ça, au moins, tu es sûr de les avoir. Tu as préparé la réponse. Tous les trucs et astuces avec ça. Peut-être que tu peux décrire aussi un tout petit peu le projet.
C'est vrai que je n'ai pas parlé du projet. Le projet s'appelait SmartCenter.net. Et en fait, c'était une espèce de une centrale de home automation, comme il en existe partout maintenant. Et surtout, et une des particularités de SmartCenter, c'était son module de chauffage intelligent. Alors, c'est bien parce qu'en fait, c'est quand même un sacré sujet d'actualité. Et en fait, ce module de chauffage faisait la blague, hein, parce que maintenant, aujourd'hui, on a du deep learning, du machine learning un peu partout, mais on avait vraiment un truc très, très rudimentaire, mais qui faisait le job d'apprendre de la part des habitudes, enfin d'apprendre des habitudes des habitants d'une maison pour adapter le chauffage, de faire en sorte que ça chauffe juste avant que tu arrives et d'éteindre le chauffage quand tu pars, ce genre de scénario. Il y avait plein d'autres trucs. Enfin, globalement, on avait fait une plateforme avec un framework qu'on pouvait brancher tout et n'importe quoi, on pouvait faire de l'automation sur à peu près tout et n'importe quoi. Enfin voilà, home automation en 2004, ça, littéralement, ça n'existait pas. On faisait ça avec des devices qui utilisaient un protocole qui était très très lent sur du CPL qui s'appelait X10. Et c'était marrant parce que c'était. Le matos qu'on utilisait n'était pas sur port USB, sachez-le les amis, on était sur du port COM. Pour ceux, il y en a, je suis sûr qu'il y en a plein qui écoutent ce podcast et ne savent pas ce que c'est que le port COM.
Oui, le port COM, port COM 1, COM 2, je ne sais pas ce que
c'est. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, mais quand on y repasse, ça fait marrer. Mais ce truc-là, mais littéralement, aujourd'hui, j'ai ça sur mon téléphone. J'ai exactement tout SmartCenter.net, tout comme on l'avait conçu. J'ai ce truc-là qui existe sur mon téléphone. Et aujourd'hui, j'ai des chauffages connectés qui apprennent de mes habitudes, etc. Bref, on aurait pu monter cette boîte. 20 ans après, je l'ai enfin dans mon appartement. Donc peut-être ça aurait pris un peu de temps pour qu'on le démocratise. Mais voilà. Et comme l'a dit Laurent, en fait, Imagine Cup, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas que du code. T'es obligé d'apprendre à faire plein de trucs autour, notamment à bien présenter ton projet, parce que ça reste quand même un truc méga important, quoi qu'on dise, quoi.
Oui, ce que j'allais dire, c'est que effectivement, dans la plupart des projets qui ont gagné ou qui ont participé, c'est pas uniquement du code. Il y a souvent de l'interaction avec des devices extérieurs. Bon, là, le premier, c'était juste avec un PDA. Vous, c'était déjà avec des devices un petit peu plus compliqués. Et puis, il y en avait d'autres. C'était avec une amélioration des GPS, etc. Enfin, il y avait vraiment un peu de tout, quoi. C'est pas uniquement du développement, quoi.
C'est clair. Je pense qu'on l'a dit, hein, mais il y a plein de projets d'Imagine Cup qui existent aujourd'hui, alors que ce soit, peu importe, que ce soit des gens qui ont pris leur projet Imagine Cup et qui l'ont développé, ou des boîtes qui sont montées et qui font exactement la même chose. Et enfin, tu regardes, il y a, je pense qu'un peu, si tu regardes encore des choses, des projets d'Imagine Cup là qui sortent cette année, probablement que c'est des choses que tu verras de manière industrielle dans quelques années.
Ouais.
Ça a toujours été le cas, en tout cas.
Et donc après donc ce faux lancement de société, t'as fait du consulting dans plusieurs sociétés, genre il y avait Exakis, il y avait VNext,
ouais.
Et puis t'as fini par fonder ta propre société.
Ouais, c'est ça. Mais en fait ouais, j'étais donc je fais du consulting. Donc comme tu l'as dit, Exakis, VNext, c'était très chouette. On t'apprend plein de trucs quand tu fais du consulting. Je suis aussi resté dans l'univers Imagine Cup parce que du coup après j'étais passé juge. Et c'était vachement intéressant de pouvoir partager son expérience avec tous ceux qui venaient derrière. Et je pense Vincent, l'autre, va en parler parce que du coup il est tour à tour, il était candidat puis juge aussi. Donc c'était assez marrant d'être de l'autre côté de la barrière. Et ensuite, effectivement, quand j'étais chez VNext, moi j'étais directeur de la partie produit. Donc on bootstrapait les produits. En interne, après c'est toujours difficile de prendre deux directions entre le service et le produit, et surtout en fait j'ai d'autres camarades de classe qui sont venus me voir, dont un est aussi un ancien participant d'Imagine Cup, qui me dit vas-y, il faut trop qu'on monte une boîte ensemble. On avait vaguement idée du sujet, mais on s'est dit il y a vraiment un truc à faire sur la partie data analytics, notamment de faire l'analytics en real time, parce que c'était une problématique qu'on avait vue à plusieurs reprises dans des boîtes et le truc n'était pas du tout adressé. Et on s'est dit il y a un truc à faire et on y allait. Et là, pour le coup, c'était et l'expérience Imagine Cup et l'expérience professionnelle tout court qui se disait OK, c'est bon, on va en chier, mais on est suffisamment armé pour le faire, donc on y va. Et ouais, on s'est lancé là-dedans et un peu par accident, on s'est dit qu'en fait notre real-time analytics, on pourrait le spécialiser sur un domaine qui est celui de la publicité télé, parce qu'au fur et à mesure des discussions avec des gens qu'on connaissait de notre réseau, etc., chaque fois ils nous ont dit votre truc c'est vachement bien parce que moi je pourrais voir un peu ce qui se passe sur mon site web ou mon application mobile quand je fais des pubs à la télé. Voilà, on avait Just Eat par exemple. Moi, j'avais Just Eat comme ancien client qui m'avait dit ça. On avait Litchi.com aussi, avec qui j'avais bossé bah, justement avec Microsoft pour faire leur migration dans le cloud de Azure. Et tous ces gens-là, finalement, sont revenus avec le même scénario. On s'est dit, OK, il y a un truc à faire. On s'est lancé là-dessus. Voilà, on a sorti la première version très dégueulasse, codée en 6 semaines, mais qui faisait le MVP. Donc ça l'a fait. Et à partir de là, on s'est lancé. Continuer à avoir des clients, on a eu plein d'emmerdes, on a continué comme ça pendant des années, on a levé des fonds, on a eu de nouveau des emmerdes, on a embauché des gens, on a eu des succès, des échecs, et puis là cette année, on a été approché par plusieurs boîtes et en fait on a cédé la boîte au groupe RTL, qui est un groupe gigantesque qui est en fait le groupe Bertelsmann et qui possède notamment M6 en France, ce genre de choses et donc du coup qui nous a rachetés. Donc c'est cool et puis là on continue pour intégrer la boîte dans le groupe et puis voilà et puis on verra la suite, on n'est pas pressé pour l'instant mais voilà et donc pour faire le lien avec tout ça bah, en fait ouais c'était un super marathon de dingue mais finalement, le premier vrai entraînement qu'on a eu dans ce genre-là, c'est de pitcher. Et le pitch qu'on a fait, le premier pitch auquel on a été entraîné, c'était celui d'Imagine Cup. Imagine Cup, ce n'est pas franchement différent du fait de pitcher une boîte devant un investisseur. Mais vraiment. Donc, message pour tous ceux qui veulent monter une boîte, faites Imagine Cup, vous verrez, c'est un bon entraînement.
Et en plus, c'était en anglais. Hein. Je me souviens de votre anglais impeccable.
Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès en anglais. Surtout Vincent, je pense que Vincent, lui, entre maintenant et avant, c'est ça n'a rien à voir. Mais effectivement, l'anglais, c'était laborieux, mais on a quand même réussi à le présenter. Et tu as raison, c'est hyper important aussi de savoir le pitcher en anglais.
DevDevDev.net. Richard Clark.
Merci. Eh ben, on a Vincent Belay qui nous a rejoint et qui donc a fini par se réveiller, qui est en direct de. C'est Seattle ou c'est.
C'est Seattle, ouais.
T'es à Seattle, ouais. Donc toi t'as participé, c'était en quelle année? C'est 2006, je crois.
2006, ouais, ouais, ouais. 2 ans après Kangoo et Vincent, ouais.
Et donc, toi, par contre, tu as eu un parcours, j'allais dire, entre guillemets, un peu plus classique. C'est-à-dire que tu es resté dans le giron de Microsoft puisque tu es rentré chez Microsoft.
Ouais, c'est un peu ça. Moi, c'est un peu plus boring comparé à Kangoo et l'autre Vincent qui ont eu le succès de créer leur boîte. Et du coup, pour moi, oui, Imagine Cup. A été aussi a participé à la révélation que j'avais beaucoup d'admiration pour cette boîte qu'est Microsoft et qui m'a vraiment donné envie de bosser pour la boîte. Les gens que j'ai rencontrés chez Microsoft, incluant Laurent et d'autres, à ce moment-là, ça m'a vraiment donné envie, quoi. Et du coup, l'aventure a continué pour moi chez Microsoft et ça va faire 14 ans, là.
D'accord. Et t'es passé par Microsoft France ou t'es allé directement à Corp?
Alors, le rêve, c'était d'aller à Corp. Je voulais vivre aux US. J'étais hyper, hyper intrigué par ce que c'était de bosser sur un produit comme Windows ou Office. C'était juste des trucs où tu grandis comme un gamin avec ça dans les mains et tu te dis, waouh, je pourrais travailler sur ça un jour. Donc mon rêve, c'était vraiment ça. La réalité, c'est que bah, comme toute chose dans la vie et surtout dans une carrière, je ne sais pas si les autres pourront confirmer ça, mais en tout cas, une des choses que j'ai appris personnellement, c'est que parfois, il faut y aller en plusieurs coups. Et c'était beaucoup plus, on va dire, accessible de commencer par rentrer chez Microsoft France et après de pouvoir, en faisant ton réseau et en travaillant sur différentes choses, de pouvoir rejoindre les équipes Accor. C'était beaucoup plus accessible. Donc, ça a été en deux coups pour moi.
D'accord. C'est Laurent qui t'a fait passer les entretiens au début ou...
Non, même pas. Même pas. Mais par contre, je me rappelle que c'est Thomas Lucchini, qui est toujours chez Microsoft aussi, et qui était dans l'équipe DPE à ce moment-là, qui m'avait référé chez Microsoft en tant que consultant à la base.
Oui, c'est vrai. On fait un coucou à Thomas, parce que c'est vrai qu'il nous a accompagnés pendant 6-7 ans, je crois, sur Imagine Cup, notamment avec le fameux Project Chimie. Mais bon, on ne va pas en parler ici, là, mais c'est vrai qu'il est...
Et pourquoi pas ?
Pourquoi pas.
c'est quand même une catégorie créée par toi et une catégorie franco-française, mais qui ensuite a été déployée au niveau mondial. Cocorico.
Oui, c'est vrai.
Que... Il va falloir...
Oula. On ne t'entend pas du tout.
Merci Laurent pour cette intervention.
Merci. Merci pour ton intervention, Laurent.
On n'a rien compris.
Je disais juste qu'il faudrait qu'on parle de cette catégorie à un moment donné dans cette émission, c'est tout.
Oui, voilà. Bah, alors, elle a fait. Moi, je me souviens justement, bah, pendant que j'étais jury à São Paulo, le soir, j'allais dans ma chambre pour essayer de faire avancer le projet parce qu'on devait le présenter, notamment à Laurent, pour voir si on allait intégrer cette nouvelle catégorie dans Imagine Cup pour l'année suivante. Et effectivement, on l'a eu pendant 4 ans, je crois. On l'a eu au Japon, on l'a eu en Inde, on l'a eu à Paris, et puis on l'a eu
en Corée, en 2007.
Et en Corée 2007, oui. On l'a eu pendant 4 ans.
Project
Oshimi. Et c'est vrai que, par contre, jusqu'à cette année-là, il y avait plusieurs catégories. Donc, il y avait ce qu'on appelait la catégorie Rennes, où c'était la présentation d'un projet, là où vous aviez gagné, Guillaume et Vincent. Et puis, il y avait d'autres catégories. Il y avait Short Film, d'ailleurs. Il y avait également du design. Il y avait de l'IT, il y avait de l'algorithme et il y avait plusieurs catégories et maintenant c'est recentré. Je crois qu'il n'y a plus qu'une seule catégorie véritablement au niveau d'Imagine Cup, c'est uniquement le concours par rapport à un projet, je crois. Laurent, si je ne m'abuse.
Oui, ça doit être à peu près ça. J'avoue que j'ai arrêté de suivre Imagine Cup récemment, j'ai vraiment changé de domaine, mais effectivement ça s'est recentré. Avec des catégories qui sont en ligne, qui tournent aussi régulièrement, et il reste quand même une catégorie REM vraiment très équivalente à celle que Guillaume, Vincent ont faite, et qui permet effectivement de pouvoir présenter quand même son projet. C'est cette idée d'origine finalement est encore là.
Et restée, oui. Et donc toi, Vincent, tu es à Seattle et tu travailles justement sur Microsoft Teams, parce qu'on enregistre avec Microsoft Teams là.
Ouais. J'ai rejoint l'aventure de Teams il y a 4 ans, quand Teams était vraiment encore un nouveau produit qui venait d'être lancé, quoi. Il avait été lancé il y a genre un an. Et je me rappelle ce premier jour où je suis rentré sur l'équipe, il y avait les écrans, tu sais, quand tu arrives à l'étage, etc. Et ça montrait le graphe, en fait, du nombre d'utilisateurs. Et je m'en rappelle voir 12 millions d'utilisateurs actifs mensuels en me disant « Waouh, c'est un bon nombre d'utilisateurs ». Et maintenant, ça nous fait sourire, bien sûr, 4 ans plus tard, parce que bah, comme on sait, on est à plus que 250 millions. Donc, ouais, ça a été une super aventure dans les 4 dernières années, ouais.
C'est toi qui as choisi de mettre ça sous électron ou
On va décliner toute responsabilité et commentaire sur le sujet. Merci Richard.
Il n'y a pas de quoi. Chihuahua. 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 Chihuahua.
Comme vous avez pu l'entendre, j'ai été très impliqué dans Imagine Cup. En mars 2003, Laurent m'a demandé d'organiser la sélection de l'équipe de France pour la première finale qui devait se dérouler à Barcelone. On a organisé ce qu'on appellera plus tard un hackathon, réunissant une cinquantaine d'étudiants aussi bien d'écoles informatiques comme l'EPITA, Supinfo, que d'écoles dites classiques, Centralpa, Université, IUT. Du vendredi soir au dimanche après-midi, 48 heures de coding non-stop, d'où le nom à l'époque Unlimited Coding. Cette première édition était un galop d'essai avec seulement une dizaine d'équipes en finale en Espagne pendant le Tech Ed. Dès l'année suivante, le concours a pris une toute autre dimension. Des sélections dans de très nombreux pays, des milliers de participants et une finale à São Paulo au Brésil réunissant plusieurs centaines d'étudiants. Le concours était lancé. C'est au cours de cette édition qu'avec Maurice et Laurent, nous avons décidé de lancer une nouvelle catégorie que j'avais développée, Projectochimie. Il s'agissait de développer l'intelligence artificielle d'une flotte de nanorobots évoluant dans le corps d'un scientifique japonais, le fameux professeur Oshimi. Cette catégorie, accompagnée par le fabuleux, l'extraordinaire, le très décontracté Thomas Lucchini, coucou Thomas, je l'ai animé pendant 4 ans tout au long de l'année, parfois jour et nuit, et oui, qui dit compétition mondiale dit créneaux horaires mondiaux, avec des finales se déroulant de Yokohama à Paris en passant par New Delhi et Séoul. Ma participation à Imagine Cup s'est arrêtée en 2009, mais le concours continue toujours avec maintenant des finales qui se déroulent à Seattle au siège de Microsoft. Si vous êtes étudiant, vous pouvez participer à ce concours. Rendez-vous pour cela sur le site officiel du concours imaginecup.microsoft.com. Comme le montrent les témoignages de Guillaume et des deux Vincent, le challenge est certes difficile à relever, mais il en vaut la chandelle.
Et notre quatrième invité, c'est Vincent Vergangean. Donc toi, tu étais dans l'équipe avec Guillaume. Et toi, par contre, tu as suivi un parcours complètement différent, puisque je veux pas dire que tu as laissé complètement de côté la technologie. Elle existe toujours un petit peu, mais tu as monté une boîte qui a de nombreux succès. Et qui fait quoi alors?
En fait, pour l'histoire, en fait, moi, j'ai travaillé pour Microsoft pendant 3 ans et demi. Donc, j'ai fait les deux, et Vincent et Guillaume. Après Imagine Cup, je pars en Australie, et à mon retour d'Australie, après une séparation, j'étais avec une fille pendant 6 ans, je pars en Irlande et j'obtiens un job chez Microsoft en Irlande, où je travaillais sur plein de produits R&D qui n'ont jamais vu le jour, pour être franc, des trucs en interne. Mais après être resté pendant 2 ans chez Microsoft Irlande, j'obtiens une place chez Microsoft Research dans la Silicon Valley. Donc, je pars à San Francisco. C'était aussi mon rêve. Donc, et là, pour le coup, j'ai bossé sur Bing. Vous savez, ce truc là, ça existe encore, ça. C'était super. Mais moi, ce qui s'est passé entre temps, d'ailleurs, un séjour extraordinaire chez l'équipe R&D de Microsoft là-bas, des gens vraiment incroyables. Mais on va dire que le virus de l'entrepreneuriat commençait vraiment à me gratter. Et puis, étant dans la Silicon Valley, j'étais vraiment dans une atmosphère entrepreneuriale qui a tout changé. Et j'ai monté une société avec Philippe Desgranges, qui était aussi un ancien, ils étaient en finale française.
2005. Ils ont été finalistes français en 2005.
Alors 2005 exactement, l'année d'après. On monte un petit truc qui s'appelait Goobox, qui passe de 0 à 1 million d'utilisateurs en un mois sur Facebook, qui transformera ma vie du jour au lendemain, puisqu'en fait, depuis, je suis entrepreneur depuis ce jour-là, en fait. J'ai monté, donc c'était une boîte de jeux vidéo avec notamment Frank Tetzlaff et le partenaire de Guillaume à Realitix. Après avoir quitté Kobojo, je pars en Pologne, et ça fait maintenant 10 ans que je suis en Pologne. J'ai monté une autre société de jeux vidéo que j'ai revendue un an et demi après, en 2013. Et en 2016, je me suis lancé dans le monde du jeu de société physique. Là, un changement assez fort et qui finalement m'a plutôt réussi. Maintenant, c'est une société qui a 60 employés. On vend des jeux de société un peu partout dans le monde. Mais je n'ai pas perdu le nord de mes origines, hein, puisqu'en fait, nos produits phares sont des produits qu'on appelle hybrides numériques. C'est-à-dire que ce sont des jeux de société physiques qui utilisent des applications compagnons pour fonctionner et qui mélangent donc le monde physique et le monde numérique.
Oui, il y a Chronicle of.
Chronicles of Prime, exactement.
Voilà.
Et puis il y en a un autre qui s'appelle Destinies, qui est sorti l'année dernière, avec plein de plastique dedans, des figurines, et dans un monde relativement, on va dire, plus mûr et un petit peu glauque de la. J'ai que des mots anglais qui viennent en tête aussi, je suis désolé, on habite tous maintenant à l'étranger et je fais gaffe de ne pas me la faire à la Jean-Claude Van Damme.
C'est donc... pas le problème, tu peux parler avec les mots anglais.
J'ai les cacahuètes, tu vois. Non, ok. Et donc. ouais, donc je me bats un petit peu avec les mots français que j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais ouais, donc c'est un jeu, c'est médiéval, très noir et très, le jeu des 14 plus d'ailleurs, voilà.
D'accord. Et il y a Dune également ou...
Alors oui, et donc on a une activité. Alors Dune, c'est pas nous qui avons inventé Dune, par contre on a une activité de distribution, donc on est en contact avec les meilleurs éditeurs mondiaux pour ramener des jeux en France. Donc aujourd'hui, on est vraiment Lucky Dog Games. On est dans le top 5 des éditeurs francophones aujourd'hui. Donc c'est pas rien. Et notamment grâce à ce genre de relations avec des éditeurs anglophones, typiquement. Là, donc Dune Imperium, c'est Dire Wolf Digital, qui est une société américaine. On est un éditeur américain, français, polonais et là cette année italien. Donc j'étais en Italie ce week-end avec la première convention italienne pour nous et le lancement de 6 jeux cette année sur le marché italien.
Et vous avez reçu plein de prix encore.
Et donc on a reçu plein de prix en Pologne. Donc la Pologne qui est la société est montée il y a 6 ans en Pologne. Il y a que 2 ans. Qu'on a une activité d'édition. Avant, nos jeux étaient distribués par d'autres sociétés locales. Et en 2 ans, là, donc c'était le prix des meilleurs jeux de l'année. Donc c'est c'était les et il y avait 7 catégories. On a gagné 4 catégories sur 7, ce qui est complètement fou. Hein.
Et pourquoi vous n'avez pas gagné 7?
C'est une bonne question, les gars. C'était bien, mais pas assez. Non, écoute, non, non, mais vraiment. En même temps, je ne peux qu'applaudir. Moi, j'ai rien fait là-dedans. J'ai juste embauché les bonnes personnes, tu vois. Mais c'est jamais arrivé. Enfin, c'est complètement fou de dominer autant le. Au revoir, Paulina. C'est complètement fou de dominer la cadre de meilleur jeu de l'année 4 sur 7. C'était complètement fou. Donc voilà, assez fier de l'équipe que l'on a et de ce qu'on fait et toujours un pied donc dans la technologie. Et c'est presque assez rare finalement. Il y a très peu de sociétés qui savent faire ce qu'on fait. Puisqu'il faut vraiment avoir un savoir-faire et papier et numérique de jeux vidéo. Et c'est vrai que de venir du monde du jeu nous a donné une capacité à faire ce genre de produit que peu de sociétés peuvent faire aujourd'hui dans le monde.
Eh ben, Laurent, tu dois être assez fier de tes petits, j'allais dire, de ce qu'ils sont devenus, de tous ces succès.
Très fier d'eux. Attends, depuis des années, évidemment, je les suis, je les vois de temps en temps, pas assez souvent, parce qu'évidemment, on vit tous dans des pays un peu différents maintenant. Hein. Quoique Guillaume, de temps en temps, je pourrais venir te voir. Hein. Mais,
Moi, je suis toujours à Paris, n'hésite pas.
C'est vrai, j'y suis un peu plus souvent, on va dire, donc je peux y aller aussi. Hein. C'est vrai qu'il faudrait qu'on se fasse un déj un de ces jours. Et et puis il n'y a pas que, hein. il y en a plein d'autres. Hein. C'est ce qu'effectivement Guillaume a dit, Vincent est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Ça fait plaisir, si tu veux, et puis moi je suis toujours très fier. Je suis toujours très fier de voir la réussite des petits Imagine Cup. Je pense que toi aussi, Richard, parce que tu fais monsieur là qui me dit gentiment, tu vois, mais tu en as dit aussi beaucoup, tu as été aussi coach, tu as été jury. Ça fait 19 ans que tu es sur Imagine Cup aussi, donc tu en as vu énormément. Et puis, si tu fais c'est parce que tu as aussi de garder un bon souvenir et puis de garder des contacts avec, avec certains et que là, on parle vraiment du début.
Ça y est, on l'a reperdu.
Mais, je veux vraiment, en tout cas, il y a vraiment un truc pour moi que je veux mentionner, c'est que avec Imagine Cup, en fait, ça a été vraiment une opportunité de rencontrer des gens qui sont passionnés et après, en fait, c'est juste une histoire de friendship, quoi. Là, genre aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est toujours une communauté de copains, en fait. Et même si on se voit pas souvent, genre, j'ai pas vu Vincent depuis je sais pas combien de temps. Et ben, en même temps, j'ai l'impression de l'avoir vu hier parce qu'on a partagé tous ces bons moments, que ce soit en Corée ou ailleurs, qui sont uniques, honnêtement. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, Imagine Cup reste vraiment particulière, reste spéciale comme aventure. Et c'est vraiment un truc super important. Pour info, je suis resté impliqué dans Imagine Cup jusqu'à il y a genre 3 ans, quoi. Même, ouais. Même en étant juge online, etc. Parce que c'était quelque chose qui représentait tellement une aventure particulière que je n'avais pas envie de m'en détacher, quoi, au final. J'avais toujours envie de partager du temps et aider les autres avec leurs projets, leur donner des conseils, etc. Comme moi, j'ai pu avoir des conseils quand j'étais participant. Et voilà, quoi. C'est vraiment, vraiment une super aventure. Pour moi, ça a été un tournant même dans ma carrière, quoi. Même ma vision des cultures, etc. Je me rappelle arriver en Inde et sur le même thème, voir des projets tellement différents pour toujours adresser le même problème, ça a été un peu une révélation pour moi, honnêtement, quoi. Et ouais, il y a une certaine magie derrière Imagine Cup. Vincent, je crois que tu voulais dire quelque chose aussi.
Ouais, j'ai une histoire en particulier à partager sur notre victoire, parce qu'en fait, on était arrivé comme Guillaume le disait, c'est qu'on avait réussi la finale française, et puis on s'est dit, bon, on y va, il se passera ce qui se passera. Donc, on y allait avec une super équipe, une super bonne humeur, mais un peu une forme de nonchalance, un peu presque de gonfler d'ego, genre de gars, c'est bon, ça. Et on arrive là-bas, et je me souviens, à la première répétition, on se fait démonter dans les feedbacks. Et je me souviens, j'avais pleuré ce soir-là. J'avais pleuré parce que c'était très dur. On était fatigués. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et le fait qu'on soit fait démonter, c'était une bonne chose parce que ça avait recentré notre humilité. Ça avait recentré le fait que non, tout n'est pas parfait et que l'excellence prend du temps, prend de la répétition, prend de l'engagement. Et c'est parce que on s'était fait sur ces retours assez durs. En tout cas, moi, je les avais pris assez durement. Qu'on a donné vraiment 400% parce qu'on s'était dit OK, on a vraiment. Et je pense que l'air de rien, ça a vachement joué. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément influencé, comme le disait Guillaume après, parce que finalement, quand tu fais ce genre de pitch à très haut niveau, finalement, des pitchs comme ça, t'en feras tout le temps. Là encore, tu vois, je peux vous partager, je suis en train de faire une levée de fonds moi-même. Et je fais encore des pitchs à des VC ou des sociétés, etc. Et c'est ce désir d'excellence, cette présentation qui. Je suis désolé, je suis un peu bavard, mais j'ai une deuxième leçon à vous partager qui est vraiment pour moi qui était au cœur de toute la réussite entrepreneuriale que j'ai eue, notamment dans le monde de l'entertainment, hein, où on se dit j'aime bien faire des jeux, donc je vais faire des jeux. Et si tu fais le nombre de programmeurs que j'ai rencontrés en entretien d'embauche, hein, où j'étais l'embaucheur, qui ont sur leur CV, les 3 derniers mois, j'ai arrêté de travailler et j'ai fait un jeu où j'ai fait une application, je l'ai mis dans l'App Store. Bon, ça n'a pas marché. Maintenant, je cherche un travail. Et la clé dans tout ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec cette compétition, c'est que même si tu es passionné, même si tu es un bon programmeur, même si tu as quelque chose qui, a priori, fait ça, ce n'est que 50% du chemin. L'autre 50%, c'est savoir présenter ton travail, c'est aller le commercialiser, c'est aller… Et en fait, c'est hyper clé parce que c'est la différence entre un passionné qui est un bon programmeur ou qui a une bonne idée et quelqu'un qui va réussir à transformer cette passion en un objet commercialisable. Et avec ça, et pour moi, le point de départ de cette découverte-là, c'était l'Imagine Cup, où au final, il y a eu beaucoup d'autres projets qui étaient très bien, mais qui n'avaient pas une présentation aussi bien ficelée, aussi bien travaillée, avec une démonstration qui donne envie, qui convainc, et voilà.
Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose ?
Bah, en fait, je pense qu'ils ont tout dit, hein. C'est que c'est... Ça te marque. Enfin, je pense qu'une expérience Imagine Cup, ça te marque à vie, quoi. Parce que et je parle pas que pour moi, parce que justement avec Vincent, c'est chiant d'avoir deux Vincent dans le call, en fait. Mais avec Vincent Bédé, on est resté impliqué sur Imagine Cup en France et aussi au niveau mondial. Et en fait, on a transmis ça. Et en fait, on a vécu des moments vachement sympas, vachement forts avec des équipes qui ont fait le même parcours que nous sur les années suivantes à faire la finale française, puis partir en finale mondiale et tout. Et ça te donne du bagage. Et puis effectivement, tu vois un peu de tous les styles d'équipe. T'as des mecs qui sont sur deux et qui derrière se font démonter. À l'inverse, t'as des mecs qui sont super humbles alors qu'ils ont un projet de dingue. Et puis des fois, t'en as qui se mettent sur la gueule aussi. On en parle pas, mais il y a des équipes qui se mettent sur la gueule aussi. Ils n'arrivent pas à bosser ensemble, alors que ça aussi c'est clé. Hein, ça t'apprend à bosser en équipe. Hein. Et bosser en équipe, c'est, tu vois, pour faire un peu le parallèle entre Imagine Cup et le monde de l'entrepreneuriat. Moi, j'avais fait. Quand on a monté Aralytics, on est passé par un accélérateur de start-up, pardon. Et en fait, donc c'est par promotion. Donc on est passé dans tout un process de sélection. Au début, on était 350. On a fini, ils en prenaient que 12. Donc voilà, gros remake de l'Imagine Cup. On a pitché notre projet, etc. Donc quand je vous dis que c'était essentiel, ben voilà, on a été pris dans les 12 boîtes retenues pour rentrer dans cet accélérateur. Donc ça, c'était en fin 2013. Et à date, quand on regarde les stats, en fait, il y a plein de boîtes qui sont passées dans cet accélérateur qui y en a plusieurs qui ont été revendues, qui se sont revendues depuis, etc., dont nous. Mais par contre, il y en a plein qui sont mortes. Et la cause numéro un, loin devant toutes les autres, de pourquoi les boîtes sont mortes, bah c'est parce qu'en fait, les associés se sont mis sur la gueule et ils se sont séparés en disant « Allez, c'est bon, on laisse tomber. » Ce n'est pas qu'ils n'avaient plus de cash, ce n'est pas que le projet était pourri ou quoi. Non, c'est juste qu'ils se mettaient sur la gueule, tout simplement. Et en fait, ça aussi, c'est un super entraînement d'apprendre à bosser ensemble sous pression, sous maxi-pression aussi. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment un chouette truc. C'est vrai qu'on s'est tous un peu éloigné de la compète là ces dernières années parce que bah voilà, les responsabilités sont de plus en plus grandes. Donc t'as de moins en moins de temps, on va dire. Mais ouais, moi je suis resté impliqué jusqu'en 2013, jusqu'au moment où j'ai monté ma boîte. Et ouais, on a vu vraiment des beaux projets passer. Et il y a aussi des gens qui ont monté une boîte autour de leur projet Imagine Cup et qui a super bien marché. Je pense, bah, on les connaît tous là autour de la table. C'est d'ailleurs, c'est un couple, c'est marrant. C'est les Argentins, Sally et Nacho. Ils ont fait Imagine Cup en 2007. Ils n'ont pas gagné Imagine Cup. Ils se sont fait dégager au premier tour de la finale mondiale. Mais voilà, ils étaient super sympas. Ils ont fait une plateforme d'e-learning. Et là, cette année, ils l'ont revendu à une boîte américaine. Et c'était leur projet Imagine Cup, ni plus ni moins que leur projet Imagine Cup. Ils l'ont tenu à bout de bras depuis 2008. Donc, ça fait quand même un sacré paquet de temps qu'ils ont le truc. Et c'était vraiment leur projet Imagine Cup. Ils ont fait monter une boîte, c'était 50 employés. Ils ont vendu là il y a quelques mois. Comme quoi, hein, c'est...
Elle est super sympa. Elle parle bien français, d'ailleurs.
Elle parle bien français aussi, ouais. Et en fait, c'est pas un cas isolé. T'en as plein qui ont monté leur boîte sur des projets plus ou moins différents, plus ou moins modifiés, mais eux, c'était vraiment leur projet original, c'était celui-là, quoi. C'était un vrai projet de société derrière, quoi.
Bon, bah écoutez, à tous les auditeurs, vous savez, si vous êtes étudiant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je crois que les inscriptions sont encore en cours pour cette année-là, mais je crois qu'il va falloir faire assez vite. Écoutez, ça m'a fait bien plaisir de vous avoir. Une dernière petite question. Vincent, est-ce que tu as toujours ta guitare?
Et oui, j'ai toujours ma guitare. Je chante toujours la bamba, mais maintenant, c'est plus à Imagine Cup, c'est juste au mariage des copains.
Ok, et bien écoutez, ben merci beaucoup.
Merci à toi, Richard, de nous avoir invités.
Merci, merci Richard. Richard.
Merci beaucoup, merci beaucoup Richard de nous avoir invités, merci, c'était vraiment super sympa, et super sympa de vous revoir tous.
Ouais, c'est clair. Bah Laurent, quand tu viens à Paris, fais signe. Hein.
Ouais, mais je suis à Paris là, mais j'ai un emploi du temps de malade.
Je sais,
moi je aussi. Je te dois faire une image.
Quoi. Oui, vu ce que aussi. Tu fais aujourd'hui, tu as un emploi du temps de malade. Oui.
Attends, pour une fois, je suis en vacances. Là. Je prends une journée de vacances.
Pour une fois.
On gagne. Pour une fois.
Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée ou nous contacter sur Reddit ou via Twitter @devdevdev.net. Portez-vous bien et rendez-vous au prochain pull request.